RFI, grand reportage.
Nous avons démantelé des groupes criminels qui utilisent des maisons à Bagdad où ils exploitent les enfants. Ils les envoient mendier dans la rue, puis les enfants reviennent dans ces maisons et ils sont transférés d'une maison à l'autre.
Ce ne sont que des enfants et pourtant, ici, là, ils travaillent dans les champs, ailleurs, dans les ateliers. Bien souvent, frêles silhouettes en guenilles, nous les frôlons dans les rues. Pour la première fois en 20 ans, le travail des enfants a augmenté à travers le monde. Ils sont aujourd'hui près de 160 millions à travailler, 8 millions de plus qu'en 2016. En cause notamment la crise du coronavirus et l'augmentation de la pauvreté. Un exemple parmi beaucoup d'autres, l'Irak. Là-bas, le nombre d'enfants forcés de travailler n'a cessé d'augmenter depuis les années 90 en raison des conflits, des déplacements forcés et des défis économiques. Irak, une génération exploitée, c'est un grand reportage de Lucille Wasserman.
Razelia, en périphérie de Bagdad. Il n'est que 9h du matin, mais le soleil est déjà haut dans le ciel et les températures atteignent les 40 degrés. Devant l'une des stations essence du quartier, le chef de la distribution pour les deux roues s'active et remplit les réservoirs. Il n'a pas plus de 10 ans, ne dépasse pas 1m30 et a des joues encore bien rondes.
D'accord, je vais t'apprendre à rien.
Tiens, ramène-moi ces deux bidons d'essence là-bas.
Son assistant à qui il s'adresse a 2 ans de moins que lui. À eux deux, ils gèrent la distribution pour les scooters, les motos et les tuk-tuk. Tous ces véhicules n'ont pas le droit de rentrer dans les stations essence en Irak. Alors ces deux enfants louent à leurs utilisateurs des récipients pour qu'ils aillent à pied à la pompe, ressortent et fassent le plein. Tout ça pour quelques centimes.
Les bidons ne sont pas à moi, je les loue moi-même à 15 centimes la journée. Puis je les loue à 15 centimes également à tous ceux qui veulent les utiliser. J'ai peut-être 3 ou 4 clients l'après-midi.
En jogging troué et t-shirt blanc taché de fioul, ce jeune Irakien dit avoir quitté l'école et commencé à travailler pour soutenir financièrement sa mère, sans emploi. Il vient ici chaque jour accompagné de ses deux frères et ne se plaint pas.
Ça va, j'aime bien. C'est ça depuis un bout de temps maintenant, même s'il fait chaud quand même.
Dans ce quartier, comme un peu partout en Irak, des enfants de son âge nettoient aussi les voitures, vendent des mouchoirs, portent des marchandises, etc. À Razelia, ces petits travailleurs viennent presque tous d'un bidonville, connu sous le nom d'Al-Kariya, le village en arabe. Ce jour-là, les habitants du quartier traînent dans les ruelles poussiéreuses et cabossées où flottent des drapeaux de l'imam Hussein. Certaines familles stationnent devant leurs portes. Elles attendent celui qu'elles surnomment ici « Papa Noël ». Henrik, c'est un fonctionnaire irakien d'une quarantaine d'années, bedonnant, des lunettes d'aviateur sur le nez. Il est connu dans ses quartiers défavorisés autour de Bagdad car il y passe une grande partie de son temps libre pour aider principalement ses familles avec un peu d'argent, de la nourriture ou des affaires scolaires et surtout les dissuader ainsi d'envoyer leurs enfants à la
rue.
Aujourd'hui, il rencontre une dizaine de gamins du quartier, tous alignés dans une cour extérieure, le sourire aux lèvres.
Comment tu vas, mon petit ?
Ça va.
Alors toi, t'as quel âge ?
10 ans.
Et tu vas pas à l'école ?
Non.
Donc tu travailles ?
Oui, je ramasse des canettes dans la rue.
Ok, donc tu ramasses des canettes et tu les revends pour un petit peu d'argent, c'est ça ? Pourquoi tu fais ça ? Ton père est mort ?
Non, il est malade.
Ah d'accord, et tu gagnes combien par mois ?
50 centimes, 25 centimes.
Oh, c'est vraiment pas beaucoup ça.
Qu'ils aient 6 ou 13 ans, les enfants de ce quartier travaillent pour tenter d'échapper à la pauvreté. Dans cette société très conservatrice qu'est l'Irak, c'est l'homme qui subvient le plus souvent aux besoins de la famille. Alors quand ils perdent leur père ou leur oncle, c'est à eux de prendre la relève. Mais ces petits boulots peuvent vite devenir dangereux.
Il y a des enfants qui travaillent pour ramener un peu d'argent pour leur famille. Le père est malade ou même parfois il boit ou il est accro aux drogues, ce genre de choses. Et puis il y a un autre genre, et ça c'est beaucoup plus dangereux, ce sont les enfants qui travaillent pour des mafias, des gros réseaux, qui incluent parfois des gens très importants. Parfois, des petites filles sont même engagées quand elles ont 6, 7, 8, 9 ans. Elles font des petits boulots, puis quand elles arrivent à l'âge de 14 ou 15 ans, ils les font travailler en tant que prostituées.
Cela fait des années qu'Henrik fréquente ces milieux, des années qu'il écoute les histoires de ses enfants et de ses familles. Il remet ses lunettes, allume une cigarette et poursuit son explication sur le fonctionnement de ces réseaux.
La plupart d'entre eux sont des orphelins. Ils appartiennent à ces gangs organisés qui louent des hôtels à Bagdad où ils logent ces enfants.
Et pour ces groupes criminels, quel est l'avantage de travailler avec des enfants et non des adultes ?
Eh bien, les gens ont beaucoup plus de sympathie pour les enfants, surtout pour les enfants malades, les enfants avec des cicatrices sur leur visage, ce genre de choses. Ils recrutent donc des enfants estropiés, anormaux, pour que vous soyez tristes et que vous donniez de l'argent.
Selon l'ONU, 6% des enfants entre 5 et 7 ans travailleraient dans des conditions particulièrement dangereuses en Irak. Beaucoup d'entre eux seraient impliqués dans des activités illégales telles que le trafic de drogue, la mendicité forcée, la traite d'êtres humains ou encore l'exploitation sexuelle.
Salam alaikum. Shan chouhti, shan sahasrih, sahasrih, rahmallah adhich. Ya Allah.
Une mère du bidonville accepte de nous recevoir pour répondre à nos questions, à condition qu'on ne révèle pas son identité. Cette Irakienne d'une quarantaine d'années, en abaya noire, a perdu son mari il y a 2 ans. À sa mort, elle a retiré ses fils de l'école pour qu'ils puissent travailler. L'un d'eux ramasse aujourd'hui des canettes dans la rue pour en revendre l'acier.
L'autre jour, il s'est blessé. Il s'est coupé la main avec l'acier. J'ai dû l'emmener à l'hôpital pour le recoudre. Je sais qu'il veut retourner à l'école, mais je n'ai même pas d'argent pour lui acheter des habits, des pantalons, des livres. Comment je peux m'en sortir? Je suis seule et ils sont mineurs.
À ses côtés, deux de ses enfants regardent dans le vide et se tordent les mains. Henrik rappelle les risques à leur mère et tente de faire de la prévention. Elle acquiesce, mais répond qu'elle n'a pas le choix.
J'ai peur de ça, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour qu'on ait un peu d'argent? Bon, je les surveille quand même. Je fais des allers-retours pour voir s'ils vont bien. Mais vous savez, tout le monde ici vit cette situation. Peut-être pas autant que la mienne, mais on souffre tous de la pauvreté. Et on fait tous ça.
Avant la pandémie, plus d'un million d'enfants travaillaient déjà en Irak. Un chiffre qui n'a cessé d'augmenter depuis les années 90 et la succession des conflits dans le pays. Aujourd'hui, les organisations humanitaires et les observateurs du phénomène craignent que la situation ne se soit aggravée avec la crise sanitaire et économique. Nous rencontrons dans son bureau à Bagdad le docteur Ali Al-Bayati, membre de la Commission des droits de l'homme en Irak.
Bien sûr, la situation actuelle qui perdure depuis 2003 en Irak, où on a vu s'enchaîner catastrophe sur catastrophe, en commençant par du terrorisme, puis des défis économiques, puis les manifestations massives en 2019, et enfin la pandémie. Tout cela a évidemment eu un impact sur les familles irakiennes qui ont pu perdre un de leurs membres, lequel ramenait des revenus essentiels, car ces familles sont avant tout dirigées par des hommes.
Pour lui, la pauvreté engendrée par les conflits armés, les déplacements forcés et les défis économiques est l'une des principales causes du travail infantile. Mais le manque de suivi et de soutien du gouvernement a également dégradé la situation, dit-il, installé dans son fauteuil en costard gris clair.
On a près de 3 millions d'enfants irakiens non scolarisés. Le travail des enfants est donc l'une des conséquences attendues. D'autant plus s'il n'y a pas d'attention ou de préoccupation de l'État pour l'éducation. 3 millions, ça n'est pas rien. Il faut réussir à composer avec cela. Un grand nombre d'entre eux feront forcément partie de ce marché du travail infantile.
À Bagdad, une brigade a la tâche d'enrayer le phénomène. Nous prenons la direction du quartier général à l'est de la capitale pour rencontrer l'un de ses commandants, le général Adnan Hamoud. Il nous reçoit dans son bureau en uniforme beige, un képi noir sur la tête et une épaisse moustache noire sous le nez.
La mission de la police des mineurs est de patrouiller la nuit dans les endroits suspects, tels les cafés, les bars et les cinémas, et rechercher les jeunes délinquants, les arrêter et les remettre à leur famille en échange d'un engagement personnel des parents qui ne les renverront pas à la rue. Nous avons également démantelé des groupes criminels qui utilisent des maisons à Bagdad où ils exploitent les enfants. Ils les envoient mendier dans la rue, puis les enfants reviennent dans ces maisons et ils sont transférés d'une maison à l'autre. L'Irak a une population extrêmement jeune, donc ce problème est très répandu. À Bagdad, on a plus de 8 millions d'habitants, dont 3 millions de mineurs. C'est un segment de la population qui demande une attention particulière pour éviter la délinquance juvénile.
Ces opérations restent toutefois limitées. La brigade n'est composée que de 350 hommes. C'est 10 fois moins que la police en charge des affaires sociales. Les bâtiments et les équipements utilisés par les membres de cette brigade datent de l'époque de Saddam Hussein, nous confie ce général. Et outre ces policiers, aucun thérapeute ne fait partie de l'équipe pour accompagner le passage des enfants au commissariat.
En tant qu'officier de la brigade des mineurs, on reçoit une formation pour traiter ces enfants, comme ne pas leur mettre de menottes, ne pas leur faire porter des vêtements de détenus, ne pas leur montrer nos armes, etc. Mais outre cela, il y a énormément de choses à améliorer. Le travail des enfants est un problème majeur et nous manquons cruellement d'infrastructures. Le ministère du Travail n'a pas construit un seul refuge depuis les années 80. Vous trouvez ça normal ?
Engagé depuis de longues années dans ce combat, le général Adnan Hamoud en a fait une lutte personnelle. Régulièrement, il interpelle ses collègues au ministère de l'Intérieur pour qu'une stratégie globale soit enfin mise en place dans le pays. Les quelques interventions de sa brigade ne peuvent avoir un effet que sur le court terme, dit-il.
Certaines familles pauvres n'ont pas assez d'argent pour envoyer leurs enfants à l'école. J'ai demandé au ministère de mettre en place un plan d'aide pour ces familles, de les soutenir financièrement, au moins pour l'alimentation à l'école, et pour qu'elles évitent de les envoyer à la rue. On dépense des millions pour emprisonner des milliers de mineurs dans nos prisons et pour tenter de les ramener dans le droit chemin, mais il faut prendre le problème à la source. On a besoin d'un plan stratégique et de décisions qui incluent tous les ministères, élaborés pour les 10 prochaines années et pour reconstruire notre société.
Légalement, l'Irak a pourtant signé plusieurs conventions de l'Organisation internationale du travail qui réglementent l'âge minimum pour l'emploi et les pires formes de travail des enfants. Ces lois interdisent également le travail des jeunes de moins de 15 ans. Mais dans les faits, peu de ces textes sont appliqués. Le 10 mai dernier, la Commission des droits de l'homme en Irak a exigé du gouvernement et du Parlement irakien d'interdire en pratique le travail des mineurs, dans des missions dangereuses comme sur les chantiers ou dans les usines. Une demande pour leur rester sans réponse, explique le docteur Al-Bayati.
Le problème est que l'Irak a signé beaucoup de conventions, mais que la plupart d'entre elles ne sont pas respectées. Parce que tout d'abord, il n'existe pas de traduction officielle de ces textes, et dans le système légal irakien, nous avons besoin de ces conventions, puis d'une loi pour traduire ces conventions, puis d'instructions venant directement des institutions pour mettre en œuvre ces textes. Nous avons des lacunes à ce niveau. Et puis, même lorsque nous avons des lois pour combattre le travail des enfants, il n'y a souvent pas d'application de ces lois en raison d'une mauvaise gestion, d'une mauvaise administration, de la corruption, du fait que ce n'est pas une priorité ou encore de l'absence de budget pour gérer ce problème.
La lutte contre le travail infantile est loin d'être une priorité en Irak. Et c'est peu dire car dans tout le pays, un seul refuge géré par le gouvernement permet d'accueillir les enfants concernés sans famille. Arrêtés par la brigade des mineurs, ces jeunes Irakiens sont envoyés dans ce foyer à Bagdad, géré par le ministère du Travail. Sa directrice Raïda Allah a accepté de nous ouvrir les portes du refuge.
Voilà, ça c'est une des chambres où les enfants dorment. Dans celle-ci, ce sont les adolescents.
Cette Irakienne d'une 40aine d'années, en chemise à fleurs, un voile beige sur ses cheveux, nous fait visiter les chambres. 6 à 7 lits superposés sont accolés à des murs décrépits, et quelques casiers servent de rangement. Officiellement, seuls 75 enfants peuvent être accueillis ici, mais c'est rarement le cas, explique cette directrice, en pointant du doigt un tas de matelas empilés sur l'un des lits.
On est souvent surchargé. Récemment, on a eu plus de 93 enfants. Où est-ce que je suis censée les mettre ? Eh bien, j'ai 2 étages séparant les petits-enfants des enfants plus âgés. Les enfants plus âgés, je n'ai que 2 salles pour eux. Donc, quand nous avons une surcharge, je suis obligée de mettre le matelas par terre et de les faire dormir là, parce que je ne peux pas les mettre avec les plus jeunes.
La pandémie a fait exploser le nombre de nouveaux arrivants, selon elle. En parallèle, l'école a été arrêtée sous ordre du ministère. Seules quelques activités, comme des cours de musique, sont encore dispensées de manière très occasionnelle. Aujourd'hui, les jeunes enfants du foyer participent à un cours de synthétiseur avec un professionnel. De larges sourires se dessinent sur les lèvres de certains, d'autres, au contraire, gardent un visage fermé. Beaucoup de ces enfants souffrent de traumatismes psychologiques. Pour Aïda, ce genre d'activité est primordial pour les aider à revivre comme des enfants et à se réinsérer plus tard dans la société.
Nous avons des psychiatres qui viennent de temps en temps en coordination avec le ministère de la Santé. Ils nous envoient des psychologues, des dermatologues, des dentistes. Le psychiatre, par exemple, vient ici 2 fois par semaine. Il y a également les éducateurs spécialisés qui viennent ici et qui sont très importants pour tous les mineurs. Car ici, ils ont tous des traumatismes psychologiques. Ils n'ont pas eu une vie normale et tant qu'ils sont ici, ils ne vivent pas une vie normale.
Quelques jeunes du foyer ont basculé dans la délinquance avant d'arriver ici. Un jeune de 16 ans accepte de nous faire part de son expérience. Quelques cicatrices recouvrent encore son visage et ses bras. Il sort tout juste de 2 ans de prison.
Je nettoyais des vitres de voitures, je vendais des roses, des chewing-gums. Ma famille était très pauvre et on n'avait pas d'argent pour vivre. Mon père est parti en 2003, alors j'ai été élevé par ma grand-mère. À un moment, j'ai voulu voler un scooter pour le revendre et avoir plus d'argent. C'est pour ça que je suis allé en prison. Ma grand-mère est décédée quand j'étais là-bas et comme je n'ai pas d'autre famille, ni de papier d'identité, ni de maison, ni quoi que ce soit, ils m'ont envoyé ici lorsque je suis sorti.
Au milieu de sa chambre, ce jeune Irakien se pince machinalement les doigts tout en nous racontant son histoire. Ses amis le regardent et l'écoutent attentivement. Aujourd'hui, il est enfermé ici et ne peut pas sortir du foyer, mais cela n'a rien à voir avec ce qu'il a vécu en prison, dit-il.
On était beaucoup dans une toute petite pièce. 65 mineurs dans une pièce à peine plus grande que cette chambre. Il y avait une porte verrouillée avec un petit trou au milieu, c'est tout. Pas de fenêtre, rien. Ils nous battaient là-bas. On ne pouvait pas parler librement. Alors évidemment que je me sens plus à l'aise ici. Au moins, on peut bouger et parler.
À leur majorité, ces jeunes ne sont plus autorisés à rester dans ce foyer. Beaucoup retrouvent alors la rue sans suivi ni accompagnement des autorités. Peu d'entre eux réussissent à trouver un travail, alors ils retombent parfois dans la délinquance ou sont approchés par des groupes criminels. Un cercle vicieux qui accable Raïda et les autres acteurs de la lutte en faveur de ces jeunes Irakiens. Car tous le savent, sans stratégie globale de la part des autorités, ce fléau continuera d'exister en Irak.
Je m'attache à ces enfants, je m'inquiète évidemment pour eux. Où iront-ils après? Je les élève, je m'implique dans leur vie, et puis à la fin, je les balance à la rue où ils deviennent des pros faciles? Vous savez, l'enfant est toujours obligé de travailler. Ce travail, ce n'est jamais sa propre volonté. Il y a des motifs qui l'obligent à faire ça, et il faudrait s'attaquer à ça. C'est juste un enfant qu'il faut protéger de tout, des cas de harcèlement, de drogue, de traite d'êtres humains, de toutes les horreurs que l'on peut voir ici en Irak.
Irak, une génération exploitée, un grand reportage de Lucille Wasserman. Réalisation Eva Piedet.